cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 10 décembre 1986.
de la recherche du principe selon la matière n'existe pas. Et le principe selon la cause efficiente n'existe pas. Donc, il ne reste que la cause selon la forme et la cause selon la fin. Essayez de saisir toute structure de pensée philosophique. Pour Aristote, c'est la recherche des causes. C'est sa propre du philosophe. La science moderne recherche les lois. La loi, c'est une relation d'antécédent et de conséquent. Si A est posé, B est posé. Donc c'est une relation de nécessité. Toute loi exprime une relation de nécessité. Une relation. La cause, c'est un principe. C'est non. Ce n'est pas une relation. C'est une source. C'est tout à fait autre chose, vous voyez. C'est là la très grosse différence. À l'interrogation du comment, on découvre la loi. À l'interrogation du pourquoi, on découvre le principe et la cause. Et je voyais l'autre jour, on me l'a du reste envoyé, c'était dans la croix, c'était intéressant de voir que Monseigneur Honoré rappelait que toute la science moderne ne recherche que le comment et qu'on a complètement oublié le pourquoi et qu'il fallait se remettre à faire de la métaphysique. Alors, c'est pour ça que ça m'a été envoyé. C'est assez bien, vous voyez donc. Et il y a 15 jours de ça, on voit très bien qu'on commence à comprendre que depuis Auguste Comte, et bien avant, on pourrait presque dire depuis Descartes et depuis Occam, on ne recherche plus les pourquoi. Vous êtes des étangs. fait l'exemple tout long. Quand vous circulez dans la route et que vous voyez un grand de fumée, vous êtes attiré vers la fumée. Vous dites, il doit y avoir un feu. Précipitons-nous, surtout si on est pompiers. Alors on va se précipiter pour voir la source de cette fumée. Je passe par l'intellect. l'acte second, en réalité, n'est pas du tout l'acte second. Puisqu'il faut dépasser le délai qu'il y a pour découvrir l'être en acte. Le délai qu'il y a, c'est encore l'opération vitale, donc l'exercice. Je crois ça très important si on veut entrer un peu dans la pensée d'Aristote. Et il faut bien voir que saint Thomas, dans la tradition latine, prend actus des deux. Et comme saint Thomas est très intelligent, qui n'est pas arrivé au mot, il découvre. Mais c'est pas commode. Parce que quand on fait cette confusion-là, on arrête l'induction. Si vous confondez le tremplin et le saut, vous restez sur le tremplin. C'est sûr. C'est évident. Si vous confondez le toti eneinai, la quiddité et la forme, vous n'aboutirez jamais à la substance. Ou si vous confondez la quiddité et la substance, ce que fait Tricot, vous ne comprendrez jamais ce que c'est que la source, c'est-à-dire la substance. Ça, il faut essayer petit à petit d'entrer dedans, parce que c'est quand même important de redécouvrir la source, c'est-à-dire Aristote, au-delà de toute la scolastique qui était théologique, le baptême d'Aristote par saint Thomas, puis la décadence de la scolastique qui a laïcisé la pensée de saint Thomas pour en donner une philosophie scolastique par Suarez. Faut pas l'oublier. À ce moment-là, vous ne pouvez plus le comprendre. Parce que vous êtes toujours au niveau des définitions et vous n'êtes plus dans la découverte des principes. Le jour où on a laïcisé la pensée de saint Thomas pour, à partir du théologien, découvrir une philosophie, l'induction est tombée. Et donc, tout est revenu au niveau des définitions. Or, le principe est un au-delà de la définition, puisque c'est une source. Vous ne pouvez pas définir un principe. Vous définissez des conclusions. Et tout notre effort, c'est de redécouvrir une vraie pensée, mais philosophie première. C'est-à-dire se remettre dans ces deux axes. L'axe de la source de toutes les déterminations et l'axe de la source de tous les exercices, de toutes les opérations. La fin. La fin est une source d'attraction. Mais c'est une source très difficile à saisir. Parce que c'est une source d'attraction. C'est un au-delà de l'exercice. Et c'est ce qui commande l'exercice. Si vous grattez sur le papier en prenant des notes, c'est un exercice d'une opération. C'est fatigant. Vous grattez. Pourquoi grattez-vous? Parce que vous désirez garder des notes. Si vous oubliez la finalité, au bout d'un certain temps, vous arrêtez, grattez. L'exercice est commandé par la fin. Tout exercice est commandé par la fin. L'animal se met à courir pour chercher son aliment. Bien évident. Il n'y a que le chat qui court en jouant. Et de temps en temps, quand il rencontre une souris, il donne un coup de patte, il finalise son exercice. Et de temps en temps, il le finalise d'une manière épicurienne, en se jetant sur les genoux de sa maîtresse qui le caresse. Alors l'exercice est où? Pour la jouissance épicurienne du petit chat, ou au contraire, le réalisme de la finalité de la petite souris? C'est l'exercice. L'exercice est toujours finalisé, ou par la caresse, ou par la petite souris. Et on est un peu chat. exercice, c'est l'enlelekeia. Actus secundus, qu'on dira la scolastique. Mais il y a quelque chose qui est source de l'exercice, c'est la fin. Je ne me mettrai pas en mouvement s'il n'y avait pas une finalité. Vous prenez le train, c'est du mouvement. Pour arriver à tel endroit, Lyon-Paris, ou Lourdes. Voilà, ça c'est la finalité, le terme, la fin. L'energeia, c'est la fin. L'entelekeia, c'est le mouvement en vue de la fin. C'est un mouvement finalisé, l'entelekeia. C'est un mouvement ordonné. C'est pas le pur exercice pour le pur exercice. C'est un exercice finalisé qui me met dans ma fin et qui implique la jouissance. Vous voyez, c'est très important de saisir ça. Bon, ça c'est la pensée d'Aristote. C'est très important, je crois, de redécouvrir ce que saint Thomas appelait le philosophe. Pour saint Thomas, le philosophe, c'est Aristote. Et quand certains vous disent que dans saint Thomas, il y a une nouvelle philosophie qui n'est pas dans Aristote, ce que disait Gilson, ce que disait Maritain, il faut poser à Gilson la question que je lui ai posée, mais il n'a pas répondu. J'ai dit, quel est le nouveau principe philosophique que vous trouvez dans saint Thomas et qui n'est pas dans Aristote ? Pour saint Thomas, il y a une nouvelle science, s'il y a un nouveau principe découvert. Si on ne découvre pas un nouveau principe, il n'y a pas de nouvelle science. Ça, il était obligé d'accéder à ça. Alors, puisque vous dites qu'il y a une nouvelle métaphysique dans saint Thomas, qui n'est pas dans Aristote, dites-moi le nouveau principe que saint Thomas a découvert. Il ne l'a jamais dit. Et cherchez, vous n'en trouverez pas. J'ai cherché loyalement. Puisqu'il fallait quand même comprendre si ça avait peut-être une intuition extraordinaire en découvrant qu'il y avait une nouvelle métaphysique dans saint Thomas. Saint Thomas ne l'a jamais dit. Il l'aurait dit. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours considéré référence à Aristote. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a commenté Aristote. Jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas terminé. Tellement il comprenait qu'Aristote était une source philosophique qu'il fallait découvrir, qu'on avait complètement abîmé par Avicenne, qu'on avait néoplatonicienne. Ça, c'était le baptême néoplatonicien. Et saint Thomas a voulu revenir à un Aristote pur. Alors, c'est pas pour le plaisir de retrouver la pensée d'Aristote. Ça, c'est l'histoire. C'est très intéressant, remarquez. C'est l'histoire. Nous redécouvrons la pensée d'Aristote parce que nous voulons découvrir les principes. Et quand quelqu'un a fait un chemin, c'est important d'essayer de comprendre la signification de ce chemin. L'induction, c'est la voie express qui nous fait découvrir la cause. Depuis saint Thomas, répéter, ce n'est pas comprendre. Répéter. examens. Je vous ai déjà dit, on a le droit aux examens de répéter des choses que le maître a dit et qu'on n'a pas compris. Mais ça, c'est pas de la philosophie. Passer des examens, c'est pas la philosophie. La philosophie est sans examen. C'est bien évident. Puisque la philosophie, c'est éveiller notre intelligence à la réalité la plus profonde, c'est-à-dire l'être. Être philosophe, c'est être intelligent, tout court. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie, c'est pour être intelligent, c'est pour éveiller notre intelligence. Et la réveiller dans ce qu'elle a de plus profond. Donc quand on répète des conclusions et qu'on répète des définitions, ce n'est pas très intelligent. Passer des examens, ce n'est pas très intelligent. Il suffit d'avoir un peu de mémoire. C'est très important de comprendre cela. Vous voyez, la chute de l'énergie, la chute de l'être en acte comme fin. Alors, nous devons nous essayer de redécouvrir l'être en acte. Comme on a essayé de redécouvrir l'être en substance. Et ça se fait, on le sait, par une voie inductive. Quelle est la voie inductive? Elle est très complexe. Aristote nous dit que pour découvrir l'être en acte, il faut une induction synthétique. C'est la seule fois qu'il le dit. Une induction synthétique et analogique. C'est-à-dire, étant donné que c'est l'induction la plus philosophique qui soit, j'allais dire, c'est l'induction de l'induction, on touche un sommet. Quand vous découvrez l'être en acte, vous découvrez le sommet de la connaissance philosophique, du côté de l'analyse. C'est ce qu'il y a de plus pénétrant dans la réalité. Saisir l'être en acte. Et dès que vous saisissez l'être en acte, vous saisissez l'être en puissance. Vous divisez l'être en acte de l'être en puissance. Comment atteindre ce sommet qu'Aristote a atteint? Comment puis-je l'atteindre, moi? Eh bien, je sais que c'est par des expériences. Ces expériences se prennent dans les différentes parties de la philosophie qui précèdent la philosophie première, c'est-à-dire philosophie de l'art, philosophie de l'activité artistique, philosophie éthique, philosophie de la nature, philosophie du vivant. Alors, j'essaie de prendre ces expériences en philosophie de l'art. L'architecte qui édifie, qui construit. L'architecte n'est en acte que quand il construit. Autrement, il a sa carte d'identité, monsieur un tel. exerce son métier. Vous avez deux états particuliers. L'état de celui qui est qualifié architecte et de celui qui passe en acte. Je crois qu'on peut tous comprendre ça. C'est pas la même chose. Et pourtant, c'est le même bonhomme qui est architecte et qui exerce. Et du côté de l'homme, c'est le même homme. Il est architecte et il exerce. Je peux dire la même chose pour le con, pour, en passant du côté de l'éthique, pour le contemplatif, le sage. Il est qualifié de sage. Et puis, il contemple. L'exercice de la sagesse, c'est la contemplation. C'est pourtant Saint Thomas dira que la sagesse habitus contemplativus. C'est très bien d'avoir la sagesse, mais si vous l'exercez jamais, et si vous ne contemplez jamais, vous restez un sage qui ne contemple pas, c'est-à-dire qui n'est pas un sage. Vous avez donc là aussi deux états, être qualifié de sage et puis contempler. Vous voyez que c'est très différent, édifier et contempler. La contemplation, elle est intérieure. Je peux vous dire, laissez-moi contempler, je vous en prie, hein, que j'ai quand même une heure de contemplation par jour. Autrement, je serais un sage qui ne contemple plus et qui serait au chômage et au bout d'un certain temps, ma sagesse disparaîtrait. Ma sagesse a besoin d'être actuée par la contemplation. Mais personne ne le voit que vous contemplez, si ce n'est parce que vous fermez les yeux et que vous vous mettez dans un état extatique. Alors à ce moment-là, on dit « Ah oui, il est content. Oui. » Je vais prendre la photographie du sage qui contemple. Mais la photographie ne vous dira pas la contemplation du sage. Il vous montrera un état particulier dans laquelle vous dites le sage contemple. Mais la contemplation du sage, vous ne la saisissez pas de l'extérieur. Tandis que l'exercice de l'architecte, vous le saisissez de l'extérieur. Vous voyez que ça monte. Il construit, ça se voit. Il y a une œuvre. Vous voyez, vous avez deux exemples tout à fait différents. L'architecte qui édifie, le sage qui contemple. Et vous avez deux états différents. Une capacité de contempler et la contemplation. Or, vous ne pouvez qualifier l'homme de sage et donc de contemplatif que s'il a déjà contemplé. Mais s'il a déjà contemplé, c'est pour contempler encore. Parce que si je contemple, ce n'est pas pour avoir le titre de contemplatif. Je contemple pour contempler. La finalité de la contemplation est à l'intérieur même de la contemplation. Et ce n'est pas le fruit de la contemplation qui m'intéresse et qui me permet de mettre sur ma carte de visite contemplative. du milieu ambiant par lequel vous vous réveillez. Tous les jours, je passe de cet état particulier de celui qui dort et de celui qui est éveillé. C'est la même personne, rien n'est changé. N'allez pas me dire, oh, quand je dors, je suis une autre personne. Psychologiquement parlant, oui. Mais philosophiquement parlant, non. Quand je dors, je peux être un somnambule. Je peux me balader sur le toit. Un novice somnambule, ça doit être psychologiquement et psychanalytiquement parlant quelque chose d'assez particulier. Un novice somnambule, mais il dort toujours. Ne réveillez pas, parce que tant qu'il dort et qu'il est somnambule, il est une adresse parfaite. Mais dès qu'il se réveille, l'adresse disparaît et ça devient très dangereux, sauf s'il est très habile. On peut être somnambule sans être habile quand on est éveillé. C'est curieux. On passe de l'état de celui qui dort à celui qui est éveillé. Tous les jours, on fait ce petit exercice. On passe de deux états particuliers. L'état de celui qui dort et celui qui est éveillé. Je peux regarder ça aussi du côté de mes facultés vitales. J'ai la capacité de voir et je vois. Je ferme les yeux, j'ai la capacité de voir. J'ouvre les yeux, je vois. Je passe de deux états différents. Oui, cette expérience, il faut faire cette expérience. On l'a fait, mais il faut être attentif. Demain, soyez très attentif au passage de dormir à être éveillé. Faites cette expérience philosophique. C'est une expérience tellement banale qu'on n'y pense plus. Mais c'est quand même quelque chose de très important. Toutes ces expériences, toutes, voient qu'il y a deux états particuliers. L'état d'imperfection, l'état de perfection. Qu'est-ce que c'est que cet ordre de ces deux? Ces états différents sont du côté artistique, du côté éthique, du côté de la nature, du côté du vivant. Tout cela ne peut s'unifier que par rapport à l'être. Je peux donc dire qu'il y a deux états dans l'ordre de l'être, un état imparfait, un état parfait, qui quantitativement est le même. C'est le même homme qui dort et est éveillé. Donc quantitativement, il est le même. Au point de vue de sa quantité, au point de vue de sa nature, au point de vue de ce qu'il est, dans l'ordre de l'intelligibilité, selon la forme, il est le même. Et cependant, c'est tout autre. C'est tout autre de dormir et d'être éveillé. Du moins, j'espère. C'est tout autre. Alors, par là, je me pose la question. Qu'est-ce que ça représente, cet ordre de ce qui est en puissance vers ce qui est en acte? Et je découvre progressivement qu'en effet, l'être en acte finalise l'être en puissance. Je saisis un au-delà de ces différences.